Sud Radio Midi, Jean-Marie Bordry.
Et bienvenue à vous dans Sud Radio Midi, les amis. On est ensemble jusqu'à 13h30. Ça y est, les juilletistes sont de retour. Les Aoussiens sont partis. On a vécu un beau chassé-croisé hier sur les routes de France, mais il y en a deux qui n'ont pas réussi à se croiser. C'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et le maire de Lyon, Grégory Doucet. Alors que le ministre se rendait dans le quartier de la Guillotière, en proie à une insécurité galopante, tous les policiers sont de plus en plus agressés, le maire de Lyon a boycotté cette visite. Pourquoi le quartier de la Guillotière est devenu un symbole de l'insécurité en France? On va en parler avec notre invité qui est policier, il représente le syndicat Unité Police, SGP, Force Ouvrière. On va parler aussi du sport féminin. Vous l'avez remarqué hier, c'était la fin historique du Tour de France féminin. Est-ce que le sport féminin est en train de s'imposer? On en parlera avec Vincent Chaudel de l'Observatoire du Sport Business. Il fera aussi le bilan sur l'Euro féminin de football remporté hier aussi par les Anglaises en finale contre les Allemandes. Nous allons parler de nos restaurateurs qui ont besoin de main d'œuvre. Effectivement, ils ont du mal à recruter, mais en même temps, ils sortent de deux années extrêmement difficiles avec le coronavirus. Est-ce qu'il sauve les meubles cet été? C'est notre invité Marcel Bénézé qui nous le dira. Et puis à 13h, on va parler du chassé-croisé et des vacances. Tiens, appelez-nous 0826 300 300. Comment vous faites pour vous déplacer? Vous partez loin en France en vacances? Est-ce que vous préférez le train ou est-ce que vous préférez la voiture? Les sondages nous disent que c'est la voiture qui fait de la résistance en vacances. On ne peut pas vraiment s'en passer. La majorité des Français la plébiscite. Pourquoi? Ce sera notre débat de 13h à 13h30. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio.
Sud Radio Midi, Jean-Marie Bordry.
Sud Radio Midi jusqu'à 13h30, bienvenue à vous sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 13h30, on va parler tout de suite du quartier, d'un des quartiers les plus chauds de la capitale des Gaules. Il s'agit du quartier de la Guillotière. Pourquoi ce quartier symbolise-t-il l'insécurité en France? On en parle tout de suite.
Sud Radio Midi, Jean-Marie Bordry.
Non, d'abord, la réponse n'est pas que policière, elle est aussi municipale, vous avez parfaitement raison. La préemption des commerces, la propreté, l'urbanisme, le logement. Hein. Encore une fois, j'ai été maire d'une commune, si vous concentrez toutes les difficultés sociales dans un même endroit, il y a peu de chances que ça se passe bien. Vous pouvez mettre tous les policiers que vous souhaitez, c'est pas ça qui va résoudre tous les problèmes. Moi, j'en ai parfaitement conscience. Sauf que moi, je suis pas maire de Lyon, je suis ministre de l'Intérieur, donc je m'occupe des policiers.
Il s'agissait évidemment de Gérald Darmanin que vous venez d'entendre, qui s'est rendu ce week-end au quartier de la Guillotière, quartier dans lequel les images ont fait le tour de France et le tour des réseaux sociaux. Des policiers ont été lynchés il y a quelques jours. D'ailleurs, un nouveau suspect dans ce lynchage de policiers a été interpellé ce week-end. On en parle tout de suite avec notre invité. Bonjour Sébastien Gendreau.
Bonjour.
Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes secrétaire départemental adjoint pour le département du Rhône du syndicat Unité SGP Police, Force Ouvrière. Alors, plusieurs points à aborder avec vous. Les dissensions entre le ministère de l'Intérieur et la mairie de Lyon, on va en parler avec vous. Mais d'abord, un point aussi sur l'enquête. Ces images ont fait le tour de France, le tour des réseaux sociaux. Trois de vos collègues assaillis par toute une foule qui les agresse. On n'est pas passé loin d'un lynchage. Une nouvelle personne, un nouveau suspect a été interpellé. Où est-ce qu'on en est?
Alors, des éléments qui sont à ma disposition, effectivement, mercredi, en début de soirée, un individu a été interpellé lors d'un contrôle donc sur la Guillotière. Et cette personne a été reconnue comme étant l'un des auteurs des faits qui ont lieu le mercredi 20 juillet à l'encontre de mes collègues.
Mmh. Sachant que
il sera normalement aujourd'hui présenté auprès du juge d'instruction.
Sachant que ces scènes ont été filmées, on dit l'un des auteurs, vous faites bien de dire l'un des auteurs, dans la mesure où il y avait plusieurs dizaines d'agresseurs qui se ruaient sur vos trois collègues d'ailleurs. C'est ça qui a frappé une bonne partie des Français qui ont assisté à la scène sur les réseaux sociaux. Comment expliquer qu'en plein centre-ville de Lyon, la deuxième ville ou troisième, c'est selon de France, et on est vraiment en plein centre-ville, eh bien trois de vos collègues qui essaient de faire leur travail se retrouvent agressés par plusieurs dizaines de personnes?
Oui, tout à fait. Alors juste pour revenir sur l'enquête en cours, il y a encore des investigations, donc il y aura très probablement prochainement des personnes qui seront interpellées. Il y a déjà une personne qui est en détention et aujourd'hui, donc le second auteur va être présenté devant le juge. Comment expliquer tous ces faits? Ça fait des années que perdurent ces problèmes d'insécurité dans le quartier de la Guillotière. Je pense qu'il faut plus de présence policière et puis aussi il y a un problème de volonté politique, pour faire simple.
Un problème de volonté politique, ce qui nous amène justement aux dissensions entre le ministère de l'Intérieur avec Gérald Darmanin et la mairie de Lyon, avec le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, qui a boycotté la visite du ministre. On en parle dans un instant avec vous. Tout de suite, j'aimerais qu'on accueille Alain au 0826 300 300. Bonjour à vous Alain.
Bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio, vous êtes lyonnais. Alors vous confirmez ce que nous dit notre invité? parce que pour vous, ce quartier, vous le connaissez, ça fait 40 ans qu'il est dangereux, en gros.
Mais la Guillotière, si vous voulez, c'est un truc historique. Si on remonte dans les siècles passés, il n'y avait qu'une entrée sur Lyon quand on venait d'Italie. C'était le pont de la Guillotière. Donc, du côté rive gauche du Rhône, s'est créé un quartier, le quartier de la Guillotière, où sont arrivés petit à petit, au fur et à mesure des siècles, des migrants, des émigrés, des gens qui venaient en France. Ce quartier a toujours été, a toujours eu une réputation violente. Tout Lyonnais vous dira que le quartier de la Guillotière a une réputation quand même particulière. Au début du siècle, il était surnommé le triangle du crime. Donc c'est quand même, enfin du XXe siècle, il était surnommé le triangle du crime. Donc ça prouve bien que la violence dans ce quartier est quand même endémique, remonte quand même à longtemps. Maintenant, depuis quelques années, peut-être à cause du Covid, à cause des confinements, à cause de tout ce qui s'est passé, les gens ont été de plus en plus tendus, cette violence est montée. Mais la violence n'est pas apparue d'un seul coup depuis 6 mois. Et par contre, là où je suis obligé de rejoindre la personne de la police, c'est qu'effectivement,
Sébastien
il y a un problème
Jean-Gros
politique.
Qui est avec
nous. J'ai pas retenu, non, excusez-moi. Il y a un problème politique depuis des dizaines d'années, c'est-à-dire aucun maire dans la ville de Lyon n'a pris à bras-le-corps le problème de la Guillotière. Et encore, il ne faut pas se plaindre, la fosse aux ours a disparu. C'est-à-dire qu'à l'entrée du pont de la Guillotière, il y avait ce qu'on appelait la fosse aux ours. C'était en contrebas, c'était le bal des drogués et compagnie. Ils ont fini par construire un parking souterrain dessus, donc la fosse aux ours est comblée. Donc ça a au moins supprimé tout ça en attirance pour la drogue. Mais la Guillotière par elle-même est un quartier qui a une réputation quand même à Lyon assez violente.
De coupe-gorge, si je comprends ce que vous nous dites.
Non, pas coupe-gorge, mais d'une certaine violence.
Oui.
Et pas simple, c'est un quartier qui est compliqué à gérer. Il est multi-ethnique, mais actuellement, effectivement, il y a une montée de violence. Il n'y a pas malheureusement que les forces de l'ordre qui sont embêtées. Les commerçants, on doit reconnaître, sont embêtés. J'ai des amis asiatiques qui ont des restaurants. Ils ont des problèmes avec les terrasses. Les terrasses sont régulièrement scènes de bagarres générales et compagnie. Donc c'est très compliqué. Mais les politiques, de toute façon, ont une très grande responsabilité dans le problème. Quoi.
Mais justement, on va essayer de parler des solutions politiques avec notre invité. Merci beaucoup, Alain. Bon, j'espère que vous profitez quand même des vacances un petit peu. Continuez à profiter en écoutant Sud Radio. Pourquoi pas? Pourquoi pas Sud Radio Midi? Vous nous rappelez quand vous voulez au 0826-300-300. Problème de volonté politique, nous dit Alain, Sébastien Gendreau. Problème aussi presque séculaire, d'après ce qu'il nous dit. Comment on explique qu'il y ait une fixation de la délinquance dans ce quartier-là, en plein centre-ville? Comment vous, policier, vous l'expliquez, Sébastien Gendreau?
Ouais, alors il y a quand même d'autres quartiers qui sont réellement discutés sur Lyon. Là, on en parle parce que c'est médiatisé. Il y a quelques temps, on parlait beaucoup du quartier de la Duchère. Ouais. Je peux vous en citer plein d'autres. Pour rejoindre l'analyse d'Alain, comment effectivement on peut dire que le quartier de la Guillotière est, on va dire, compliqué depuis des années, c'est qu'effectivement, il y a des personnes qui sont installées. Et puis, il n'y a peut-être pas eu assez de présence policière. Ça passe aussi, quand on parle de politique, peut-être d'un réaménagement du quartier. Alain en parlait, là, votre auditeur en parlait. Effectivement, il y avait la fosse aux ours, où c'était un endroit de squat au niveau du trafic des stupéfiants. Ils ont décidé de monter un parking. Il faudrait peut-être revoir le réaménagement du quartier. Et puis, alors, nous, de notre côté, je pense qu'il faut que, dans un premier temps, il y ait une présence policière au quotidien, parce que effectivement, ceux qui souffrent le plus, ce sont les habitants et les commerçants du quartier. Ça devient une horreur.
Et puis on peut imaginer d'ailleurs que lorsque 3 de vos collègues, c'est ce qu'on a vu cette semaine, se font prendre à partie par plusieurs dizaines de personnes alors même qu'ils essaient d'interpeller quelqu'un qui était en train de commettre une infraction, c'est aussi que les délinquants qui sont sur place n'ont plus l'habitude de vous voir, en tout cas de vous voir faire votre travail.
Alors, ils nous voient passer, mais moi, ce qui m'a fait proprement, on va dire, halluciner sur les faits qui se sont passés, c'est qu'il y a des personnes qui sont interposées face aux policiers, ne sachant ni même ce que l'individu avait fait. Il aurait très bien pu commettre des faits criminels.
Oui.
Et voilà, on en est là. C'est-à-dire qu'on décide de s'opposer à interpeller une personne qui aurait pu commettre un crime, par exemple. Ça devient du grand n'importe quoi.
Donc il n'y a aucune confiance en la police, en tout cas pour ces personnes-là qui s'en sont prises à elles. Parlons maintenant de la politique, parlons-en. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, a rendu visite aux habitants cette semaine, il faut bien le dire, pour les écouter, disait-il, pour le dialogue. Il a promis d'être ferme. Il a boycotté par ailleurs la visite du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Alors, est-ce qu'il y a de la récupération politique et de l'opportunisme ministériel dans cette visite de Gérald Darmanin ce week-end, ou est-ce que effectivement, le maire de Lyon ne veut pas entendre parler d'une politique sécuritaire?
Ah, ça, c'est une bonne question. Ce sont des problèmes, on va dire, politiques. Ce qui est important, c'est qu'il faudrait qu'ils arrivent à pouvoir discuter ensemble. C'est important. Il faut une collaboration commune entre la mairie et le gouvernement et le ministre de l'Intérieur. Ça, c'est important parce que le message qu'on a fait passer, nous, on l'a vu samedi, c'est qu'il y a des gens en souffrance. Et donc, il faut partir au-delà de, on va dire, des problèmes politiques. Et il faut arriver à discuter. Ça, c'est une urgence. Les commerçants en ont besoin, les habitants en ont besoin. Et ce n'est pas un bon message qu'on envoie à la population.
Qu'est-ce que le maire de Lyon pourrait faire pour le policier que vous êtes et pour les policiers que vous représentez?
Alors, je pense que le maire de Lyon, ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est surtout s'occuper de ses habitants et de ses commerçants. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour lutter contre l'insécurité et la délinquance dans ce quartier? Je pense qu'il faudrait qu'il augmente ses effectifs de police municipale. A priori, ces derniers mois, ils ont baissé. Il y a aussi, on en a parlé, ça a été évoqué, l'augmentation peut-être des caméras de vidéosurveillance. Il n'y en a pas eu depuis un certain temps et pourtant, malgré tout, c'est un outil très important pour les enquêteurs. Il faut savoir qu'il y a une partie des deux individus qui a été interpellé grâce à l'identification par la vidéosurveillance. Bon, effectivement, par les vidéos qui ont été transmises par notamment ces délinquants, mais c'est un outil super important. Donc, vidéosurveillance et plus de présence policière, augmentation de sa police municipale et réaménagement du quartier.
Réaménagement du quartier, ça veut dire quoi? Détruire des bâtiments, réduire aussi les impasses, par exemple, certains endroits où il y a des angles morts?
Ouais, par exemple, il y a tout un tas de choses. Il y avait Monsieur Borloo qui avait fait un grand projet de plan de réaménagement du territoire. Il y avait plein de choses intéressantes. Malheureusement, a priori, c'était, on va dire, un projet extrêmement coûteux. Je pense qu'il y a des choses à prendre dans ce projet. Et effectivement, il faut revoir de manière plus globale le réaménagement. Alors, je ne peux pas vous dire concrètement quoi, ce n'est pas forcément mon boulot, mais en tout cas, il faut y réfléchir et rapidement.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qu'on entendait au début de cette émission, disait que le quartier de la Guillotière concentrait beaucoup de difficultés, notamment sociales, concentrait beaucoup de pauvreté, qui faisait que ça aggravait par ailleurs, heureusement tous les pauvres ne sont pas délinquants, loin s'en faut, ça aggravait par ailleurs la délinquance sur place. Comment on fait pour remettre un minimum de mixité sociale dans un quartier comme celui-ci?
Justement, le ministre de l'Intérieur parlait de droit de préemption au niveau des commerces. Il faut que le maire décide d'installer des commerces, de nouveaux commerces, je pense, effectivement. Et puis derrière, il y a le réaménagement. C'est pas évident, mais c'est un quartier populaire. C'est une très bonne chose d'avoir un quartier populaire. Effectivement, il faut pas faire un lien entre la pauvreté et la délinquance ou l'immigration et la délinquance, même si souvent, malgré tout, les problèmes peuvent être liés et ça, ce sont des faits.
Et effectivement aussi, quand vous êtes plutôt pauvre et dans un quartier plutôt pauvre, vous êtes aussi le premier à la subir cette délinquance. Le deuxième, c'est le policier et ce sont tous ceux que vous représentez. Vous parliez, et ce sera ma dernière question, d'une augmentation de la présence policière. Combien aujourd'hui, tiens, à ce stade, sur une journée normale, y a-t-il en ce moment de policiers à peu près qui sont en train de patrouiller dans ce quartier? Sébastien Gendreau.
C'est variable aujourd'hui. Alors, depuis les faits, il y en a beaucoup plus, oui. Forcément.
Et ça va durer combien de temps?
C'est une bonne question. C'est ce qu'on a demandé au ministre de l'Intérieur. Il nous a promis d'envoyer 570 effectifs, dont 70 effectifs de la compagnie régulière de sécurité qui serait à demeure. Il faut que ça dure un certain moment. Actuellement, là, tous les jours, il y a des opérations de contrôle de police, ce qui a d'ailleurs permis d'interpeller samedi un deuxième individu. Donc, la présence policière, je ne peux pas réellement vous la quantifier, mais elle est bien plus importante.
Mmh.
C'est
et ça
une
marche
bonne
ou
chose
pas
pour le quartier.
Ça suffit? Ça marche ou pas? Le seul là, fait de vous voir beaucoup plus souvent.
Oui, mais bien sûr, il y a des résultats, ça marche, c'est ça. Il faut, dans l'urgence, il faut de la présence policière dans un premier temps. Donc, il faut que le quartier soit... on va dire, plus couvert par nos forces de l'ordre. Le problème, c'est que ces derniers temps, ça n'avait pas été réellement fait, puisqu'on a des réels problèmes d'effectifs. Il nous manque environ 300 fonctionnaires sur l'agglomération. Une brigade spécialisée du terrain a été créée sur le quartier de la Guillotière suite aux faits qui ont eu lieu en février à la Guillotière. Il était prévu 30 effectifs, on en a que 20, il en manque 10. Donc voilà, Ça fait partie des problématiques.
C'est un combat de tous les jours, y compris pour les policiers. Merci à vous, Sébastien Gendreau.
Merci.
Je rappelle que vous êtes secrétaire départemental adjoint du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière pour le département du Rhône. Tiens, si vous êtes lyonnais, vous aimez peut-être le sport féminin, Sébastien Gendreau, pour changer de sujet du tout au tout, puisque la meilleure équipe de football de la ville, ce sont les Fenottes, ce sont les multiples championnes d'Europe et championnes de France. On va parler dans un instant du sport féminin qui a déboulé en grande pompe sur nos écrans cet été. On va faire le bilan du Tour de France féminin et aussi de l'Euro de football féminin. Est-ce que le sport féminin est en train de s'imposer aussi dans les médias? On en parle avec notre autre invité, Vincent Chaudel. Merci à vous, Sébastien Gendreau. À tout de suite sur Sud
Radio.
Sud Radio Midi, Jean-Marie Baudry.
Sud Radio Midi jusqu'à 13h30. Vous étiez peut-être devant votre télévision hier. Vous avez peut-être suivi cet événement historique et cette renaissance après 3 décennies d'absence. Le Tour de France féminin qui a fini en beauté.
Sud Radio Midi, Jean-Marie Baudry.
Annemiek van Vleuten, elle ne tremble pas, elle ne tombe pas et elle va s'imposer, remporter la première édition du Tour de France femme. Annemiek van Vleuten, Demi Vollering n'aura rien pu faire pour arrêter la leader de la formation Movistar qui signe donc le doublé après avoir remporté le Giro. Elle remporte le Tour de France. Annemiek van Vleuten sur le toit du monde.
Annemiek van Vleuten en maillot jaune, vainqueur de la dernière étape sur la super planche des belles filles. Hier, sacrée saison pour la néerlandaise. Le Tour de France féminin qui a fait son retour, je le disais, sur vos écrans hier, avec aussi cette autre compétition qui a été très suivie, notamment parce que les Français sont allés jusqu'en demi-finale. Il s'agissait de l'Euro de football féminin. On en parle avec notre deuxième invité, Vincent Chaudel. Bonjour à vous.
Bonjour Jean-Marie.
On vous retrouve régulièrement dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Vous êtes fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Sport et business, d'habitude on entend ça. Malheureusement pour l'égalité des sexes, c'est souvent à l'avantage des hommes. Le retour de ce Tour de France féminin. Est-ce qu'on peut parler d'une percée télévisuelle ou pas?
Alors oui, c'est une belle performance. Le record, par exemple, samedi, ça fait 2,7 millions de téléspectateurs en plein après-midi. Donc ça, c'est une très belle performance. Effectivement, on est plutôt sur une phase ascendante du sport féminin. Alors, il y a encore, bien évidemment, des progrès à réaliser. On aurait aimé qu'il y ait plus de téléspectateurs pour les matchs des Bleus, notamment pour ce France-Allemagne.
Là, vous parlez de l'Euro. Oui.
Mais c'était quand même plus de 5 millions de téléspectateurs sur TF1. C'est beau.
Ce qui est quand même une assez belle performance. Est-ce qu'on sait si le public qui regarde les compétitions masculines est le même que celui qui regarde les compétitions féminines?
Alors, on le sait, c'est pas tout à fait le même. Il a tendance à être plus familial, à être aussi plus féminin et c'est normal. Mais il y a encore une marge de progression. Le 21e siècle sera évidemment le siècle du sport féminin.
Alors, on peut parler aussi du business, parce que c'est aussi pour ça que vous êtes là. Concrètement, je gagne combien si je remporte le Tour de France masculin et combien va gagner Annemiek van Vleuten qui a remporté le Tour de France féminin hier? C'est quoi la différence?
C'est un rapport de 1 à 10. En gros, c'est un rapport de 1 à 10.
En termes d'argent.
C'est 500 000 pour les hommes, c'est 50 000 pour les femmes. Euros, bien évidemment.
Bien sûr.
Donc oui, il y a cet écart-là. Mais
est-ce que c'est le même écart que celui de la popularité? C'est-à-dire, est-ce que c'est le même écart qu'il y a entre, par exemple, ceux qui regardent la compétition? Est-ce qu'il y a 10 fois plus de téléspectateurs pour le Tour de France masculin?
Alors,
que féminin?
Non, parce que quand j'ai parlé de 5 millions de spectateurs, de téléspectateurs...
Il n'y en a pas 50 pour les hommes.
Il n'y en a pas 50 pour les hommes. Mais en revanche, en termes d'affluence dans des stades, par exemple, ou en termes de suiveurs sur les réseaux sociaux, on est à peu près sur des ratios qui vont même au-delà de 1 à 10. Mmh. Et c'est quasiment... en effet miroir, l'écart qu'il y a avec les revenus sur le mercato des footballeuses, par exemple, on est sur des sommes qui se comptent en centaines de milliers d'euros, là où les sommes pour les grands joueurs se comptent en centaines de millions d'euros.
Pourtant, on peut parler quand même de stars du sport féminin et notamment de notre équipe de France féminine. Tout le monde connaît ou a entendu le nom de Wendy Renard, la Lyonnaise qui joue en équipe de France. Malgré tout, vous avez une percée considérable dans la notoriété.
Alors oui, ça progresse, encore pas assez, puisque finalement les footballeuses les plus connues sont plutôt les commentatrices comme Laure Boulot qui a des communautés qui dépassent le million. Mm-hmm.
Mais vous parlez des abonnés sur les réseaux sociaux, ce qui est le meilleur indicateur.
Tout à fait. C'est un indicateur qui est très symptomatique et qui permet d'avoir des points de comparaison entre les différentes joueuses ou entre les différents sports même. Si on regarde les comptes de l'équipe de France, au début de l'Euro, elles étaient à 86 000. Elles ont fini à plus de 135 000. Donc, elles ont progressé. Elles n'ont pas fait x2, mais elles ont progressé de plus de 50% sur la compétition. C'est bien. Mais nos amies allemandes et anglaises ont des communautés qui dépassent les 300 ou 400 000.
Donc, il y a un retard conséquent par rapport à d'autres pays. Il faut dire aussi Exactement. Que le pays où le football féminin était roi, c'était les États-Unis historiquement, alors qu'il était en deçà en Europe. Ça, c'est pour le football. Quels sont aujourd'hui les sports les plus mixtes dans les sports, disons, populaires, Vincent Chauvin ?
Alors, le tennis est probablement la bonne pratique en termes d'exposition, en termes de sponsoring, en termes d'audience et en termes de price money, c'est-à-dire les revenus. Dans les tournois du Grand Chelem, que ce soit Roland-Garros ou les trois autres, on a une égalité des primes versées aux joueurs et aux joueuses.
Sauf que le tennis a 70 ans.
Ça peut être le cas aujourd'hui.
Le tennis féminin a quasiment 80 ans d'avance sur les autres sports. C'est-à-dire que le tennis est autant féminin que masculin depuis au moins Suzanne Lenglen, par exemple. C'est ça la différence.
Exactement. Vous avez raison, c'est une question de temps. Alors, ça ne va jamais assez vite pour les sportives en activité, bien évidemment, mais ça progresse. L'étape principale, ça a été la professionnalisation du football et des cyclistes l'étape d'après, ça va être l'augmentation de leur temps d'exposition, l'augmentation des partenariats et donc l'augmentation de leurs revenus.
Exactement. Parlons maintenant des préjugés dont le sport féminin est souvent victime. Comment on explique que ce soit naturel pour tout un chacun de regarder une finale de Roland-Garros, finale féminine, sans même avoir besoin d'ailleurs de dire c'est du tennis féminin ? Et comment on explique que ce soit moins naturel pour des téléspectateurs de faire la même chose pour du football ? Pourquoi le tennis, par exemple, féminin est si populaire alors que le football féminin a plus de mal à faire son trou?
Alors, déjà, ce ne sont pas des sujets qui se règlent d'un coup de baguette magique, en une décision qui est descendante, en disant désormais tout le monde va regarder. Il y a effectivement un phénomène, il faut se créer des stars. Si on prend le cas du tennis féminin, il a longtemps été porté par des grandes tenniswomen, des Steffi Graf, des Sharapova, et des Serena Williams, etc. Il y a un sujet de stars. Alors les stars, elles se font par leur performance, mais aussi par l'à côté. Il faut donner des aspérités, des éléments qui feront qu'on aura envie de les voir. Il y a un phénomène de ce qu'on appelle, à travers ces stars, de rôle modèle, c'est-à-dire que c'est parce que ces stars existent que demain, les petites filles vont avoir envie de pratiquer. Mmh. Il va y avoir un sujet aussi d'encadrement. Il faut qu'il y ait des entraîneuses au sens sportif du terme qui soient là, qui leur permettront de gravir les échelons. Il y a beaucoup d'éléments qui seront importants. Ça passe en partie par le sport à l'école. C'est un sujet qui est très long.
Pourtant, tout le monde fait du sport à l'école.
Oui, tout le monde fait du sport à l'école, mais pas avec nécessairement la même culture. Je pense qu'on a un sujet. Alors, Kevin Mayer a mis les pieds dans le plat la semaine dernière avec sa médaille, la seule médaille française au Mondiaux d'athlétisme, en disant que on avait un sujet sur l'apprentissage de la victoire, le goût de la victoire dans l'enseignement. Je pense qu'il a en partie raison et que Paris 2024 pourra nous aider par rapport à ça, mais il ne va pas tout régler d'un coup de baguette magique.
Mais pourtant, le goût de la victoire dans l'enseignement, ça concerne autant les hommes que les femmes.
Oui, le sujet de Kevin Mayer n'était pas ciblé sur les femmes, il était sur notre culture et notre rapport au sport d'une façon générale. Il est accentué dans le cas des femmes, mais on a un sujet de culture sportive en France d'une façon générale. Maintenant, sur le rapport aux femmes, je pense que le sujet c'est-à-dire voir des mamans, voir des femmes, voir des championnes se réaliser sur le terrain, on n'en voit pas assez. Donc Par exemple, le travail qui a été fait autour de la D1 Arkema, gardons à l'esprit que le Mondial 2019
a permis à la
France…
C'est le championnat de France de première division des femmes, la D1 Arkema.
Exactement. En 2019, on a été jusqu'à 14 millions de téléspectateurs pour voir France-États-Unis en quart de finale. Mm-hmm. C'était une audience comparable aux garçons. Mm-hmm. Tout le monde était, s'en était réjoui et pensait que c'était fait. Moi, j'avais alerté en disant « Attention, 14 millions, c'est magnifique, mais il faudra voir combien seront devant leurs écrans pour suivre la D1 Arkema à la rentrée. »
C'est ça.
Et là, on s'assoit compte… Bien sûr, c'est retombé.
Mais c'est pareil pour les hommes. Si je mets les pieds dans le plat, Vincent Chaudel, à chaque fois que vous avez la Coupe du Monde et que l'équipe de France masculine va jusqu'en demi-finale, vous avez 66 millions de Français devant les écrans, donc 40 millions de footix qui d'habitude ne regardent jamais le championnat de France, comme on dit. C'est pareil pour les femmes.
Pas tout à fait, Jean-Marie, parce que quand on fait une demi-finale contre l'Allemagne, on a 5 millions de téléspectateurs. Ouais. Quand les Bleus de Deschamps font un match amical… ils font plus de 5 millions. Donc, on n'est pas tout à fait sur les mêmes dimensions. Mmh. Voilà. Donc, mais ça avance, ça progresse.
Continue à analyser ce que vous nous disiez, comment on explique qu'on soit passé pour un match contre les États-Unis à la Coupe du Monde de 14 millions de téléspectateurs à une demi-finale contre l'Allemagne avec les mêmes, l'équipe de France féminine de football, à 5 millions, là presque divisé par 3 cette audience. C'est dû à quoi ? C'est l'euro qui passionne moins que la Coupe du Monde ou c'est que ceux qui ont découvert le foot féminin devant la Coupe du Monde n'ont pas aimé ?
En fait, c'est que la Coupe du Monde en 2019, elle était chez nous. Et donc, on en parlait matin, midi et soir. C'était un événement qui était porté par la France. Donc, il y a eu un effet d'entraînement qui était là.
Comme en 98 pour les hommes.
Exactement. Et là, pour les Anglais, ils ont eu cette dynamique-là. Et alors, ce qui me semble très intéressant dans cet euro, c'est que je ne sais pas si vous avez fait attention aux images, mais on avait toujours l'impression que les stades étaient bien pleins. Mmh. Mais parce que les Anglais ont fait en sorte de faire jouer ces matchs dans des stades à la mesure du football féminin, c'est-à-dire les matchs de l'équipe de France étaient dans des stades en général de 12-15 000 places. Donc ça permet d'avoir cette sensation de grand public. Et la finale à Wembley, de toute façon, la finale, ils étaient certains de pouvoir la remplir, surtout si c'était l'Angleterre qui jouait, ce qui a été le cas.
Pas de risque. Et c'est un stade de plus de 80 000 places, un peu comme le stade de France.
Exactement. Il y avait 87 000 spectateurs.
Mmh. Est-ce qu'on a une idée du nombre de supporters étrangers qui se sont déplacés jusqu'en Angleterre pour assister à ce championnat ?
Alors ça, je ne peux pas vous le dire de façon précise, mais sur ce genre d'événement, ça se compte en général en millions de billets vendus. Alors, si on prend le cas de 7 euros, il y avait moins de billets à vendre puisqu'on était dans des stades plus petits. Mmh. On avait aussi moins d'équipes que dans un mondial puisqu'on doit être à 4 poules de 4. Donc, on avait 16 équipes alors que le mondial, on devait être à 24 et mondial de foot, on est à 32. Donc, on a mécaniquement plus de matchs, plus de spectateurs, plus de pays concernés. Mais ça se compte en général en millions de spectateurs. Et là, c'est une belle opération de tourisme
tourisme
du pays hôte.
Une belle opération de tourisme.
Parce que les gens viennent.
Oui, effectivement.
Les gens viennent. Et quand l'équipe de France a commencé sa compétition début juillet, elle l'a fini la semaine dernière.
C'est vrai. Et ça permet d'ailleurs, à chaque pays hôte, c'est pareil pour les hommes, d'accueillir des millions et des millions de visiteurs étrangers qui peut-être un jour reviendront pour d'autres raisons. Longue vie et bonne route surtout au sport féminin.
Peut-être en 2023 pour la Coupe du Monde de rugby chez nous, par exemple.
Ce sera intéressant. On va surveiller tout ça. Merci beaucoup, Vincent Chaudel. Fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Merci à vous d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Restez avec nous. On va continuer à parler d'affluence. Cette fois-ci, des hommes et des femmes. Ce sont les touristes, ceux qui sont les clients des restaurants et des restaurateurs. Est-ce que les restaurateurs français finissent par relever la tête après 2 années de coronavirus, alors même que les touristes, notamment européens, semblent être revenus? On va en parler dans un instant. Tiens, vous êtes peut-être restaurateur, vous nous écoutez sur Sud Radio. 0 826 300 300. Est-ce que les affaires sont difficiles ou est-ce au contraire, elle tourne. Est-ce que vous arrivez à recruter ? Pareil, c'est le même numéro. 0826 300 300. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio.
Sud Radio Midi, Jean-Marie Baudry.
On est ensemble jusqu'à 13h30 sur Sud Radio. Parlons des vacances et parlons aussi de ceux qui en vivent de nos vacances. Parlons des restaurateurs. Est-ce qu'ils sont en train de sauver les meubles et de redresser la tête après 2 années difficiles ? On en parle tout de suite.
Sud Radio Midi, Jean-Marie Baudry.
En tout cas, il y a du monde. C'est ce que nous disent tous les restaurateurs, qu'ils soient dans le sud-ouest, dans le sud-est, qu'ils soient aussi, pourquoi pas, tiens, en région parisienne, Loïse attire davantage des touristes européens. Les touristes et les clients de la restauration semblent de retour. Est-ce que ça va permettre aux restaurateurs de relever la tête ? Bonjour à vous, Marcel Bénézet.
Bonjour à Sud Radio, bonjour aux auditeurs.
Vous êtes président de la branche des cafés, bars et brasseries et restaurants du Groupement National des Indépendants en Hôtellerie et en Restauration. On le disait, retour des vacances, plus de passe sanitaire d'ailleurs. A priori, vous n'aurez plus ce problème-là à l'entrée. Et retour aussi des touristes, y compris étrangers. Est-ce que la profession relève la tête ?
Alors, la profession relève la tête, effectivement, oui. Alors, sur Paris, au mois de juillet, c'était parfait. Mais aujourd'hui, sur Paris... Le mois d'août s'annonce très très calme. Aujourd'hui, Paris est un peu désert. On a la chance d'avoir des touristes qui sont là. Beaucoup européens, franco-français, européens, des Américains. Mais bon, voilà, ça revient un petit peu. Par contre, ça marche très très bien, tout ce qui est province. Alors, moi, je suis en province. Je suis à Marcillargue, dans l'Hérault, hein, bien sûr. Alors, il y a les fêtes locales. Alors là, ça, c'est blindé, c'est de la folie. Mm-hmm. Alors là, ça marche, Dieu de feu. Mais alors, quand tu ne termines, l'autre reprend dans un village. Donc, dans le sud, que ce soit la côte... La Grande Motte, toute la côte Montpellier, Palavas, tout ça. Mmh. Il y a énormément de monde. Donc,
avec un événement qui aurait pu avoir un impact d'ailleurs, ce sont les incendies. Notamment, il y en a eu dans l'Hérault et c'est toujours une situation qui est un petit peu inquiétante. Est-ce que ça a eu un impact ou pas sur la fréquentation ?
Alors, ça a un impact. Je vois chez moi en ce moment, j'ai des cendres qui me tombent parce qu'il y a eu un feu à Aubé et j'ai des cendres qui reviennent sur Marseillargue, par exemple, mmh. où j'ai des cendres dans mon patio où je suis obligé de nettoyer parce que j'ai des cendres qui retombent. Mais ça a un impact bien sûr parce que ça a détourné des véhicules. Des gens qui seraient venus à une soirée ont été détournés et ont abandonné leur soirée. Mais bon, c'est minime, c'est pas très inquiétant.
Et heureusement
c'est
d'ailleurs
inquiétant aussi parce que
les dégâts ont été contenus par les pompiers. On peut quand même saluer aussi leur courage et leur action. Qui est le client type d'un restaurant, tiens par exemple à Marcillargue dans l'Hérault en ce moment? Est-ce que c'est plutôt un Français qui nous arrive, pourquoi pas de Lyon ou alors de Bordeaux ou de Nantes ou d'Île-de-France, ou est-ce que c'est plutôt un Hollandais ou alors un Belge?
Non, alors c'est que c'est franco-français, c'est les régions. Vous avez des gens qui sont partis travailler dans d'autres régions et qui reviennent, qui en profitent pour inviter des amis. Moi demain soir par exemple, je fais une soirée chez moi avec des amis. Ah, on a été coupé. Non,
non, on est toujours. On vous entend toujours. On vous le dira quand on vous entendra plus, mon cher Marcel.
Mais si vous voulez, on reçoit. Il y a beaucoup de monde, mais il y a des Bretons. Vous avez de tout. Toute la France se déplace sur le sud, et aussi bien les gens du sud pour aller en Bretagne aussi. Aujourd'hui, la satisfaction des restaurateurs, elle est pleinement satisfaisante. Le mm-hmm. problème, c'est les salariés. Aujourd'hui, vous avez des restaurants sur la côte qui sont obligés de fermer un jour par semaine parce qu'ils n'ont pas de salariés, ou qui sont obligés de finir leur service à 22 heures parce qu'ils n'ont pas de salariés. Alors que là, les restaurateurs comptaient sur la saison estivale pour se refaire une trésorerie, et aujourd'hui, ils sont contraints de limiter les ouvertures. Donc, automatiquement, ça impacte les recettes. Et aujourd'hui, la restauration est prise dans un étau parce que nous avons plein de contraintes. Nous avons les contraintes de la matière première, le gaz, l'électricité, la matière première, tout s'en met dans les assiettes.
Tout ce qui augmente.
Et ensuite, et tout ce qui a augmenté. Donc aujourd'hui, il faut revoir complètement les cartes et faire des cartes pures. Surtout pas baisser la quantité, parce que beaucoup s'inquiètent que les portions ont réduites. Non, il ne faut surtout pas réduire les quantités. Il faut repenser notre outil de travail. C'est-à-dire travailler des produits différents, avoir des cartes épurées avec 5 entrées, 5 plats, 5 desserts, c'est tout.
Est-ce que vous pouvez aujourd'hui dire que c'est parce que les salaires sont trop bas ?
Non, alors ça c'est un faux problème. Dans la restauration chez nous, les salaires ne sont pas bas. Alors le problème, c'est
quand on est bien payé, on postule, Marcel.
Non, mais c'est le monde a changé. Vous avez dans tous les métiers recrutent. Il n'y a pas que la restauration. Mm-hmm. Ce qui nous fait une mauvaise image de la profession, c'est les fast-food. Vous avez les McDo, tous ces gens-là emploient des jeunes au SMIC. Donc effectivement, nous, dans la restauration, vous avez des gens qui sont embauchés à 2 400, 2 800 euros par mois. C'est quand même plus les pourboires, ils arrivent à faire 3 000, 3 500. C'est quand même un salaire aujourd'hui.
Donc c'est davantage,
non, dire que c'est mal payé.
C'est davantage c'est que pas. Le salaire médian. Alors qu'est-ce qui pêche ? Ce sont les conditions de travail qui dissuadent les gens de postuler ?
C'est aujourd'hui, nous rentrons dans un nouveau monde. Les jeunes, il ne faut plus leur parler de carrière. Mais ils travaillent 6 mois là, ils veulent pas de CDI.
Mais ça pourrait vous suffire pour le mois d'août, par exemple. Alors pourquoi, malgré tout, il y a des restaurants qui n'arrivent pas à recruter pour le mois d'août ?
Le problème du logement, nous avons un problème du logement. Des jeunes qui arriveraient, mais ils ne peuvent pas se loger parce que les gens qui ont des appartements les louent pour des saisonniers, pour des saisons pour faire la saison touristique. Donc aujourd'hui, le problème, c'est le logement des salariés et le salaire. Le salaire, il est là. Les patrons payent les salariés. Il ne faut pas dire que c'est les salaires. Ce n'est pas vrai.
Alors c'est quoi ? Ce sont les horaires ? Qu'est-ce qui fait que la restauration, on va quand même arriver à décortiquer ce sujet à un moment et avoir le fin mot de l'affaire. Qu'est-ce qui fait que c'est la restauration qui a le plus de mal aujourd'hui à recruter dans les nouvelles professions qui ont du mal à recruter ?
Parce que c'est un métier qui est mal connu. Nous, c'est mal connu parce qu'il faut adapter les horaires aujourd'hui. Il faut revoir complètement nos plannings. Parce que ce n'est même pas le patron qui fait les plannings, ce sont les salariés qui font les plannings. Aujourd'hui, les jeunes sont en demande différente. Ils veulent plus se faire imposer. C'est eux qui imposent aujourd'hui leurs horaires de travail. Donc, il va falloir s'adapter. On va s'y adapter.
Bien sûr. Alors, quel type d'horaire, allons jusqu'au bout de l'affaire, quel type d'horaire, au début, on proposait en général à un jeune serveur qu'on venait de recruter, et quel type d'horaire, lui, il a tendance à préférer ? Parlons d'abord de ce que vous aviez l'habitude. J'arrivais à Marcillac, je postulais pour le mois d'août, par exemple, pour être serveur sur un restaurant. En général, on me proposait quoi comme type d'horaire ? C'était quoi ma vie sur une semaine ?
Alors, c'était surtout le service du midi et du soir, avec une coupure l'après-midi, parce que ou alors que faire ? Vous avez des gens qui veulent faire que le midi, et à ce moment-là, ils font 4 heures le midi ou 5 heures, et vous avez un autre jeune qui va faire 5 heures l'après-midi.
D'accord.
Mais aujourd'hui, il faut s'adapter. Voilà, mais ça demande.
Et qu'est-ce que vous demandent les nouveaux ? Alors, que vous demandent vos recrues aujourd'hui ?
Ils veulent déjà savoir combien ils vont gagner, ce qui est important. Ils ont déjà le pourboire, mais c'est au moins 2500, c'est entre 2000 et 2800 euros par mois pour la saison, pour un mois. Donc c'est quand même bien payé.
Donc ça, c'est important. Pour ce qui est des horaires, ensuite, vous avez dit qu'aujourd'hui.
Alors, les horaires, ils font 8 heures par jour, 7h45. Même ils ne les font pas. Ils veulent des contrats courts. C'est-à-dire que ça ne les dérange pas de travailler que 5 heures le matin. Il y en a qui préfèrent un travail le soir. On s'adapte. Le tout, c'est de trouver les gens. Quoi. Le problème, c'est que...
Et malgré cette adaptation, vous n'arrivez pas à trouver ces gens ?
On a du mal à les trouver. Effectivement, on a du mal à les trouver parce qu'on est dans un nouveau monde depuis le Covid. Le monde a changé. Et les jeunes, il n'y a plus d'ambition de carrière. Aujourd'hui, ils n'ont pas les ambitions que nous avons eues, nous. Les jeunes, c'est pas tous.
Ils en ont quand même, des ambitions. Et qu'est-ce qui a pu changer ? C'est ça qui est intéressant, Marcel Benazet ?
Ce qui a changé, c'est qu'il n'y a pas que dans la restauration. Ça, on est dans un nouveau monde. Aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus travailler comme nous avons travaillé. Ils ne vont pas faire 60 heures par semaine. Déjà, c'est que les patrons qui les font. Hein. Mais quand ils ont fait 42 heures avec des heures supplémentaires, croyez-moi, ils sortent avec un bon salaire. 42 heures de travail par semaine, c'est non plus pas le forçat, quoi, je veux dire. Bien sûr, c'est beaucoup. Mais je veux dire, quand vous avez gagné 3000 euros par mois, ça vaut, avec les heures supplémentaires, ça vaut bien le coup de faire quelques heures supplémentaires. Et c'est pas tout le temps. Les heures supplémentaires, c'est quand il y a un surplus de travail. C'est pas en permanence.
Et ça veut dire que jusqu'à avant le coronavirus, il y avait encore des serveurs qui devaient faire 60 heures par semaine, comme vous le disiez
non,
à l'instant.
Non.
Ça arrivait ou pas ?
Non, ça arrivait. Des fois, ils faisaient un doublon, mais ils étaient d'accord. Ils le faisaient parce que ça les arrangeait, parce qu'ils voulaient gagner de l'argent. Parce que dans ce métier, aujourd'hui, dans ce métier, celui qui veut gagner de l'argent encore, il peut le faire. Voyez-moi, s'il veut travailler. Mais c'est pas interdit de travailler en France. La liberté du travail, elle est là. Donc, celui qui veut faire 60 heures, il peut les faire. Mais c'est pas le patron qui les impose. Hein, parce que sinon, il va se retrouver. Je suis conseiller prud'homme, on va le retrouver au prud'homme. Hein, je
peux dire que 60 heures, c'est fini, considérable. Ça, alors que vous-même, vous l'avez fait au début de votre carrière, Marcel.
Personnellement, en tant que chef d'entreprise, j'ai fait beaucoup plus. Mais je suis le chef d'entreprise. Mes salariés n'ont jamais fait 60 heures de travail par semaine.
C'est quoi votre record d'heures de travail sur une semaine, à peu près ?
Pour mes salariés à l'époque.
Pour vous ?
Pour moi, ça m'intéresse. J'ai fait 80 heures quand j'allais à Rungis. J'ai travaillé beaucoup.
Et pour vos salariés ?
Mes salariés, ils faisaient 42 heures à l'époque parce que maintenant, j'ai passé la main depuis un petit moment. Mais c'était 42 heures, c'était fréquent dans le métier. Aujourd'hui, c'est 40 heures.
Aujourd'hui, c'est 40 heures. Donc, pour vous, c'est de plus en plus compliqué. Mais vous le regrettez ou pas ?
On va s'adapter.
J'ai compris que vous alliez vous adapter. Vous l'avez dit plusieurs fois. C'est logique. De toute façon, d'ailleurs, vous n'avez pas le choix. Mais est-ce que vous la regrettez, cette époque ?
Je regrette surtout parce que les gens n'ont plus l'ambition de vouloir gagner de l'argent. Dans ce pays, le gagner de l'argent, c'est tabou. Aujourd'hui, le problème, il est là. Moi, je peux vous assurer que pour travailler, il n'y a qu'une méthode. Hein. C'est que pour gagner de l'argent, il n'y a qu'à travailler. Donc, et de travailler beaucoup, ce que j'ai fait. Maintenant, si les gens n'ont pas envie de travailler, c'est leur problème. Hein. Parce qu'aujourd'hui, la France est un pays généreux. Vous avez des gens qui gagnent plus à ne pas travailler qu'à travailler. Donc,
pour vous, c'est le fond du problème. C'est-à-dire que si les serveurs ne postulent plus, c'est que, concrètement, d'après vous, vous êtes persuadé qu'ils ont plus intérêt à ne pas travailler ?
Moi, mon ennemi, c'est Pôle emploi, monsieur.
Votre ennemi, c'est Pôle emploi ?
C'est Pôle emploi, oui, tout à fait.
C'est
parce que moi, j'ai encore hier des gens qui sont venus dîner chez moi, Elle a quitté un boulot, elle m'a dit, je suis allé à Pôle emploi. Elle m'a dit, écoutez, vous avez travaillé 25 ans dans cette boîte, reposez-vous un petit peu. Finalement, elle a trouvé un job dans la restauration hôtellerie. Elle m'a dit, reposez-vous un petit peu, madame, et puis ne vous pressez pas, on va vous trouver quelque chose. C'est honteux d'entendre ça, elle me l'a dit. C'est une amie, je la crois. Quand Pôle emploi dit des choses comme ça, je pense d'ailleurs qu'il va y avoir du changement chez Pôle emploi, d'ailleurs. En tant qu'élu de la Chambre de commerce de Paris, je pense que ça ne s'appellera plus Pôle emploi, d'ailleurs. Ça va changer de nom.
Ça, c'est un autre sujet sur lequel on aura le temps de revenir en longueur. Ça fait partie de ces réformes difficiles et importantes que le gouvernement essaiera de faire passer avec une assemblée où, on le rappelle, il n'a pas la majorité. Dernier point, vous l'avez dit, pour ce qui est de la capitale, donc ça c'est pour Paris, le mois d'août s'annonce plus calme que le mois de juillet. Est-ce que, au contraire, pour la côte, pour le sud, a priori le mois d'août s'annonce aussi radieux ?
Excellent. On va faire une saison touristique excellente en France en général. Parce que dans les provinces, vous avez plein, il y a des festivités dans tous les villages de France. Il se passe quelque chose. Même vous, les premiers, Sud Radio, faites la promotion de pas mal de festivités qui se passent, pas que dans le sud, mais dans tous les coins de France. Je pense que la France touristique, elle est là. Vous avez de tout en France. Vous avez des châteaux, vous avez des, on a la matière pour le tourisme.
On a la matière et on a la première destination touristique du monde. Qu'on soit à Marcillac, dans l'Hérault, comme vous, à l'instant, en direct sur Sud Radio, ou qu'on soit n'importe où d'ailleurs dans le pays. Tiens, dernière question pour la transition, Marcel Benezet. Comment viennent les clients qui sont dans vos restaurants ? Ils viennent en voiture ou alors ils viennent en train ?
Alors, les voitures dans mon village, il n'y a plus de place pour se garer. Ils viennent en voiture parce qu'ils repartent des villages où ils sont dans les hôtels plus loin. Mais ils viennent en voiture. Pour venir à Marcillac, moi j'ai un ami qui arrive, il devait le chercher à Lunel en train. Il arrive avec le train. Mais beaucoup sont venus en voiture, bien sûr, parce qu'on est le sud, on n'a pas beaucoup de moyens de locomotion, de déplacement. Mais quand vous allez dans les grandes villes, si moi je vais à Montpellier, je laisse ma voiture à Lunel, j'y vais en train.
Et ce sera le thème du débat de Sud Radio Midi dans quelques minutes. Justement, est-ce que la voiture, et pourquoi plutôt la voiture, fait de la résistance pendant les vacances, moyen de transport privilégié des Français ? Marcel Benezet, je vous propose qu'on écoute un témoignage pour terminer. 0826 300 300, bonjour à vous Patrick.
Oui, bonjour.
Début du mois d'août, fin du mois de juillet, on parle des vacances justement. Est-ce que vous attendez à ce que...
Moi je travaille, malheureusement.
Vous êtes débordé ?
Un peu, oui. Moi, je suis dans l'auto-entreprise, donc multiservice, et j'ai du boulot en pagaille, oui.
Vous avez du boulot en pagaille ? C'est dû à quoi ? C'est dû au fait que vous avez du mal à recruter ?
Eh bien non. Alors, moi, je suis dans le multiservice dans le bâtiment. C'est pas ça. C'est en fait, j'étais sans emploi, et puis où j'habite, je me suis rendu compte que c'est une zone rurale, non, c'est une zone montagnarde en plus, qu'aucun artisan ne voulait venir travailler. Et donc, j'ai récupéré le travail, tout simplement.
Et vous, au contraire, vous avez un problème familial, pour rebondir sur ce que disait Marcel Benezet, c'est que vous avez une fille qui n'arrive pas à travailler, alors qu'elle en cherche.
Par contre, Marcel, bonjour. Alors moi, contrairement à ce que vous avez fait, je vais rajouter quelque chose à ce que vous avez dit. Les jeunes de 16 ans ne veulent pas travailler. Moi, j'ai une fille de 15 ans qui est passionnée de cuisine. On a trouvé un article de loi qui date de 2021 qui autorise les mineurs de moins de 16 ans à travailler. On a fait des démarches avec un restaurateur qui était très content puisqu'elle avait déjà fait un stage chez lui. Donc il était super content de la prendre et de la prendre en tant que salarié pour cet été. Oui. Et 15 jours après, on nous dit, non, c'est pas possible, priorité aux demandeurs d'emploi. Or, les demandeurs d'emploi ne veulent pas travailler.
C'est un peu frustrant.
Effectivement. Voilà, le problème. Voilà. Ça revient à ce que je disais.
Ça revient à ce que vous disiez. Vous savez quoi, Marcel Benezet ? Je propose qu'on vous mette en contact l'un et l'autre. Peut-être que vous arriverez à trouver du travail ou pas, d'ailleurs, où vous saurez réaiguiller Patrick qui nous appelait depuis la Haute-Garonne au 0826 300 300. On verra bien. Puisqu'il y a des Français, vous l'entendez, Marcel, qui veulent travailler. Ça restera
tout. Bien sûr qu'il y a les gens veulent travailler en France. Bon. On est un pays qui est travailleur. D'ailleurs, quand on est au travail, on est le plus performant, les Français. C'est le pays le plus performant. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens veulent autre chose. Il y a le télétravail, on est en réorganisation complète de la société.
Effectivement. La seule chose qu'on n'a pas encore réussi à inventer, c'est le télétravail pour faire le service en restauration. Ça, c'est a priori incompressible. Merci à vous, Marcel Benezet.
On est guidé par notre estomac.
Exactement.
Donc, en mange à midi le soir.
Mais c'est sûr, voilà. Il est 12h58 sur Sud Radio. Il est 12h58, c'est l'heure où un certain nombre de Français d'ailleurs se pressent sur les terrasses des restaurants. Merci à vous Marcel Benezé. Je rappelle que vous êtes président de la branche Café Bars et Brasseries du Groupement National des Indépendants de la Restauration et de l'Hôtellerie. Restez avec nous, on va parler du chassé-croisé dans quelques minutes, juste après les informations sur Sud Radio. Pourquoi c'est en voiture que vous vous déplacez en majorité en vacances alors qu'on vous conseille de prendre le train. On va en parler avec nos deux invités. À tout de suite.
Sud Radio Midi, Jean-Marie Bordry.
Sud Radio Midi jusqu'à 13h30. Tout de suite, le débat, vous l'avez vécu hier. Vous étiez peut-être sur la route dans le sens des retours ou dans le sens des départs. Le chassé-croisé n'a pas changé.
Sud Radio Midi, Jean-Marie Bordry.
Bon, ben voilà, maintenant on est derrière la Belge.
Pourquoi les Belges n'en fait, vous les aimez pas?
Ils nous polluent, les Belges. Attendez, je vais doubler, je vais tripler. Alors là, regardez, Salomon, regardez.
Bah oui. Quoi?
Eh ben c'est propre, c'est net, c'est silencieux, y a pas de fumée, c'est un Français.
Dis donc, toi, tu peux pas faire la queue comme tout le monde?
Abruti, crétin, cocu, andouille. T'as entendu, hein? C'est ça les Français.
Eh oui, c'est ça les Français. Les Français sur la route, toujours aussi désagréables, surtout quand ils sont nombreux. Bon, inutile de vous rappeler que c'était Rabbi Jacob, un extrait de Rabbi Jacob avec la voix de Louis de Funès. Pourquoi la voiture fait de la résistance pendant les vacances, alors même qu'on nous aide, on nous conseille même de plus en plus de privilégier les transports en commun et le train, pourquoi pas? On va en parler avec nos deux invités. Yves Carra, bonjour à vous.
Bonjour.
Président de l'Automobile Club Association.
Alors, porte-parole
de l'Automobile Club Association. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Michel Kidor. Bonjour à vous.
Bonjour.
De la Fédération Européenne des Voyageurs. Président de la Fédération Européenne des Voyageurs. Il ne s'agit pas d'un débat pour ou contre la voiture. La Fédération Européenne des Voyageurs qui est spécialisée dans les transports en commun. Vous représentez les usagers, c'est-à-dire plutôt, tiens, pourquoi pas, les usagers du train. On est en train de parler du moyen de transport privilégié par les Français pendant les vacances. Une enquête Ipsos pour la société Roule nous le révélait. 73% des vacanciers français allaient privilégier la voiture pour partir cet été. Comment expliquer le fait que la voiture, qu'on a tendance à repousser des centres-villes, par exemple, face à laquelle on a tendance à privilégier le train, c'est encore l'interview du ministre des Transports Clément Beaune dans le journal du dimanche hier, comment expliquer que la voiture fasse une telle résistance pendant les vacances, Yves Carra?
Bah écoutez, ceux qui nous écoutent et qui ont trois enfants, qui vont faire à peu près 500-600 km pour partir au sud de leur habitation, c'est à peu près ce qu'on fait pendant les vacances, qui emmènent la poussette, qui emmènent tous les bagages, eux, ils ont la réponse. C'est-à-dire qu'en train, c'est compliqué. D'abord, c'est assez cher parce que c'est un vrai tarif quand on est 5, même quand on est des enfants en bas âge. Je crois qu'il ne faut pas opposer le train, le bus même, pourquoi pas, à la voiture ou même au vélo, si on a envie de partir en vélo. Tout le monde doit pouvoir trouver le moyen de se déplacer qui est le mieux pour lui, le moins cher, le meilleur pour la planète et le plus pratique pour sa famille, c'est tout, il ne faut pas opposer.
A priori, il ne faut pas opposer. Malgré tout, on constate une belle résistance de la voiture, Michel Kidor, ce qui veut dire aussi que le train, par exemple, a encore du mal à gagner des parts de marché sur la voiture pendant les vacances.
Oui, pendant les vacances, parce que le représentant de l'Automobile Club le faisait remarquer à l'instant, il y a deux types de déplacements, il y a les déplacements exceptionnels du type long congé de vacances, et puis il y a les déplacements du quotidien. Mmh. Et là, il est clair qu'il y a une priorité d'usage. Le train est quand même assez plébiscité compte tenu du nombre de gens qu'il prennent et de la foule qu'on voit dans les gares.
C'est un fait.
Là-dessus, il n'est pas question non plus de faire un débat pour ou anti. Mmh. Ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, et personne ne le conteste, à peu près 80% des déplacements, y compris les déplacements quotidiens, se font en voiture. Il y a peut-être de la marge pour qu'un certain nombre de déplacements motorisés, pas tous, il n'est pas question de faire du dirigisme en la matière, mais qu'un certain nombre de déplacements puissent être réorientés vers le train en tout ou partie. Donc là-dessus, la raison doit l'emporter. Et le train, en fait, lui, il a pour lui sa capacité, sa rapidité et puis son bilan écologique.
effectivement. Mais en revanche, il devrait aussi avoir le prix. C'était un des objectifs clamés hier par le ministre des Transports, Clément Beaune, limiter ce qu'il appelle les pics tarifaires, notamment pendant les périodes de grand départ. En d'autres termes, faire en sorte qu'un billet de la SNCF ne coûte pas à ce point, coûte pas aussi cher le 15 août ou alors le week-end du chassé-croisé. Mais vous disiez, Yves Carra, à l'instant, que le train, ça coûtait cher. C'est un fait, sauf que la voiture aussi. L'essence a explosé.
Oui, complètement, mais ça dépend. Si on est tout seul, effectivement, un trajet en voiture, ça coûte excessivement cher. Le train est sûrement plus avantageux. Quand on est deux, c'est plus le cas. Quand on est une famille, c'est ce que je disais, il n'y a pas débat. Mais encore une fois, c'est vrai que votre invité le disait, il y a deux types de trajets pendant les vacances exceptionnelles et pendant le quotidien. Oui, bien évidemment, il y a quelque chose à gagner. Mais vous savez, essayer de réserver un billet les grands week-ends, même les week-ends normaux, même pas parler de grands week-ends du 14 juillet, pour revenir ou aller à Toulouse, Montpellier, Bordeaux, Lyon, Avignon et tout, il faut s'y prendre des mois et des mois à l'avance. Moi, personnellement, j'ai essayé un mois et demi pour faire revenir une personne de Toulouse. C'était même 8 semaines avant. Il n'y avait plus de place. Donc, je me suis rabattu sur autre chose. C'était complet, mais pas une place dans la journée. Donc, c'est très bien le train, mais c'est limité. Donc, à ce moment-là, on s'est rabattu sur autre chose. Et vous savez, l'idéal, ce serait aussi de pouvoir prendre un train sur les longues distances. On arrive, on loue une voiture, et ce serait très, très bien. Vous savez que les locations de voitures ont augmenté de 30% cet été. Donc, vous voyez, rien n'est simple. Et la voiture, ça reste encore le plus pratique. Peut-être que c'est un peu plus cher, pourquoi pas. Peut-être que si on faisait le trajet en bus, ça reviendrait moins cher. Mais c'est pour passer 2 jours de ses vacances dans le bus, arriver, galérer là-bas et ne pas pouvoir se déplacer parce qu'on n'a pas de voiture. Voilà, il ne faut pas opposer. Chacun doit trouver le moyen qui est le mieux pour lui. Et aujourd'hui, il faut bien reconnaître que la voiture, c'est mieux.
Et ce que je vous propose, c'est de vous poser une question un peu personnelle. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre d'ailleurs, mais comment vous déplacez-vous vous-même l'un et l'autre pour partir en vacances, quitter votre lieu de résidence et aller dans un autre endroit du pays? Est-ce que vous avez tendance à privilégier le train ou est-ce que vous avez tendance à privilégier la voiture? Michel Kidor.
Non, moi, c'est le train.
Toujours le train. Toujours le train, donc de ville à ville.
Oui, de ville à ville, oui, tout à fait.
Effectivement. Ce qui veut dire aussi que vous passez votre vacances en ville. Vos vacances,
pas forcément, il y a des TER, il y a des services de transport collectif, il y a des taxis, il y a des voitures de location. Non, il ne faut pas.
Voilà.
Ce n'est pas de la monoculture, je m'empresse de le dire.
Voilà, vous n'êtes pas anti-voiture. Mais ça veut dire qu'en gros, il est possible de se passer de sa voiture pendant les vacances d'été.
Michel, je voulais dire, juste par rapport à ce qui avait été dit auparavant, il y a un signal prix qui compte. Effectivement, on a déjà mentionné 2 fois que le train était cher.
Oui.
Et puis, les propos de M. Clément Beaune. M. Clément Beaune, il vient d'arriver, on lui fait confiance. C'est très bien qu'il y ait un ministre, il n'y en a pas eu pendant le premier gouvernement Beaune, c'était étonnant, ministre des Transports. Mais il faudrait qu'il se rappelle, M. Beaune, que la SNCF, elle est un actionnaire, c'est l'État.
Oui.
Donc nous, ce qu'on demande, c'est que l'État soit stratège, définisse la politique et non pas qu'on laisse la SNCF se dépatouiller avec des mesures plus ou moins favorables, avec des mesures aussi qui la concurrence. Si la voiture est aidée, si l'on subventionne le prix du carburant, parce que c'est comme ça que ça se passe en ce moment, il n'y a rien qui est fait pour le train. Je précise aussi que pour le train, 100% du réseau européen est à péage, chaque train qui roule paye une redevance aux gestionnaires dans l'infrastructure. En revanche, 1% seulement du réseau routier européen est à péage. Donc, tout ce que nous demandons aussi, c'est une égalisation des conditions de concurrence. Et c'est là aussi, à ce niveau-là, que le débat doit porter. C'est pas la voiture est mieux, la voiture est moins bien, le train est mieux ou le train est moins cher.
Mais pour vous, on favorise encore. Mais c'est intéressant. Pardon ? C'est intéressant au lieu de. C'est intéressant ce que vous dites, Michel Kidor. Pour vous, la voiture est encore favorisée par rapport au train ? Parce que c'est pas l'impression qu'on a quand on roule en voiture.
Favoriser ça. Écoutez, je reprends ce qui vient d'être dit il y a 5 minutes. La voiture est aidée, elle est aidée notamment au niveau du subventionnement des carburants.
C'est vrai.
Alors que le train, lui, nous, ce qu'on demande, par exemple, c'est que la TVA sur les billets de train soit abaissée à 5%. L'État ne veut pas entendre cet argument, qui serait un bon argument pour capter de la clientèle favorable et qui serait pour laquelle il serait possible de prendre le train. Donc nous, ce qu'on demande, c'est que ce signal prix, il ne s'adresse pas seulement au transport aérien, dont je rappelle que le carburant, le kérosène, était taxé, ce qui n'est pas le cas du carburant utilisé ou de l'énergie utilisée par les chemins de fer. Et donc on a tout un faisceau, tout un ensemble de choses qui font que le train part aussi avec un gros handicap dès le départ: péage des infrastructures, prix du billet et puis manque de visibilité donnée de la part de l'État stratège.
Eh bien, on va en reparler dans un instant avec vous aussi au 0826 300 300. Vous nous appelez, tiens, est-ce que vous déplacez plutôt en voiture, plutôt en train, plutôt en avion, plutôt en mobylette, ce que vous voulez d'ailleurs. En fait, tout le monde a la parole sur Sud Radio. On est avec nos deux invités, Michel Kidor et Yves Carra. Tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio Midi, Jean-Marie Bordry.
Les trois quarts des Français ont choisi ou privilégié la voiture pour se déplacer pendant les vacances. Comment expliquer cette résistance de la voiture? On en parle avec nos deux invités, Michel Kidor de la Fédération Européenne des Voyageurs et Yves Carra, porte-parole de l'Automobile Club Association. Et puis on en parle avec vous, 0826 300 300. On accueille tout de suite Lionel qui nous appelle de Grasse. Bonjour à vous Lionel.
Oui, bonjour. Bonjour à toute l'équipe.
Vous me dites Grasse, je pense vacances. Alors, c'est peut-être parce que Exactement. Je ne suis pas de la région. Vous êtes en vacances là-bas ou vous êtes de la région?
Ah non, moi, je suis de la région et là, je suis en vacances dans le Vercors. Et
vous êtes en vacances dans le Vercors. Vous avez quitté Grasse pendant les vacances. Mais c'est logique c'est si ça. Vous y êtes toute l'année. Vous êtes parti comment, Lionel?
Moi, je suis parti en voiture. Après, dans une semaine, là, je rentre et je repars au Portugal en avion. Le train, très honnêtement, le train, je me suis fait avoir une fois. Mm-hmm. Donc, vous vous posez la question de savoir pourquoi les gens privilégient la voiture. Moi, je vais vous dire, concrètement, si on pouvait éviter de se prendre des grèves en permanence au moment des départs en vacances, ou concrètement, ça vous fait sauter l'entièreté de vos vacances, parce que quand vous avez réservé, vous ne pouvez pas vous déplacer sur site et que vous êtes planté, et ben ma foi, écoutez, vous vous faites avoir une fois. Mm-hmm. Moi, je me suis fait avoir une fois. Je me suis fait avoir aussi une fois en avion avec Air France. Mm-hmm. Donc, c'est deux modes de transport, que ce soit Air France ou que ce soit la SNCF, c'est juste terminé. Donc du coup, moi je prends la voiture quand je monte dans le Vercors. Là concrètement, pour partir au Portugal, je prends j'ai pris une compagnie portugaise. J'ai même pas pris, comment ça s'appelle, toutes les compagnies là qui font grève en ce moment. Pourquoi?
Parce que ou alors Ryanair.
Oui, moi je travaille comme un chien toute l'année. Si c'est pour, au dernier moment, en fait, me faire planter sur le quai ou dans l'aéroport parce que les syndicats ont décidé de faire une nouvelle fois faire grève, en fait, ça peut pas marcher. Donc, l'ouverture à la concurrence, oui, vous savez concrètement la grève, ça a tué le port de Marseille. Maintenant, c'est Rotterdam qui est passé devant, mais maintenant depuis plusieurs années. Ça va tuer la SNCF. Ça fait un petit moment, mais c'est le résultat est strictement
identique. On sent que vous avez été marqué. Vous avez eu des vacances gâchées, on ne vous le refera pas de fois.
Non, monsieur, écoutez, vous privez toute l'année. Honnêtement, moi, je comprends qu'ils fassent des grèves à ce moment-là, parce que concrètement, c'est la période où ils sont le plus entendus. Et évidemment, ça emmerde tout le monde. Mais quand vous êtes comme moi, je suis dans le bâtiment. Donc, je travaille comme un chien de début janvier jusqu'à début août. Enfin, oui, mais jusqu'à début août. Sans aucun jour de congé. Même le dimanche, je fais mes devis, mes factures et compagnie. Si c'est pour arriver à ce moment-là où vous êtes privé, où vous avez bossé et vous faire planter une énième fois parce que ces messieurs ont décidé de faire grève, ça peut pas fonctionner. Donc l'ouverture à la concurrence, mais vite, en fait, tout de suite, de façon à ce qu'on ait des lignes. C'est exactement pareil pour la Corse. Vous avez la Corsica Ferry et la SNCM. La
ça
SNCM, elle s'est
cas.
Fait planter. Pourquoi oui. Voilà. Et la SNCM, elle s'est fait planter.
Vous
pourquoi
voulez parce que une les gens compagnie
ils se faisaient planter. Moi, je veux que le service pour lequel les Français payent dans leurs impôts systématiquement les rails, les machins et compagnie, soit un service efficient et qu'ils nous fassent pas chier quand on part en vacances et quand les gens ont besoin de profiter.
Je pense que le message est passé, mon cher Patrick.
Moi, je veux bien payer pour ça. Je veux bien que mes impôts servent à ça. Mais quand on a besoin d'eux, ils sont là. Ils font comme ils ont qu'à faire comme les Japonais. Ils mettent un petit brassard, ils mettent des pancartes, mais ils bossent. Et ils ne font pas suer au moment des vacances.
Bon, le message est passé, Lionel. Pardonnez-moi de vous avoir appelé. Patrick, profitez quand même de vos vacances dans le Vercors, parce que c'est magnifique. Profitez bien de Grasse quand vous y retournez. Puis profitez bien du Portugal. J'espère que vous arriverez à bon port. On va donner la parole dans un instant à Yves Carra, dans un instant, mais tout de suite d'abord la réponse de Michel Kidor. Il a dit plusieurs choses et elles sont importantes, Michel Kidor. Un de vos chevaux de bataille d'ailleurs à la Fédération Européenne des Voyageurs, c'est l'ouverture à la concurrence. Et l'autre aspect, c'est vrai, c'est ces mauvais souvenirs des grèves. Ça, c'est une réalité pour beaucoup d'usagers?
C'est une réalité pénible et d'ailleurs, on a nous très clairement pris position depuis longtemps. Pour protester contre ce type de grève et puis demander l'instauration d'un service minimum. Alors, je sais bien que le débat aujourd'hui, c'est pas le social, donc je glisse là-dessus, mais ce qu'il faut absolument comprendre, et votre auditeur avait tout à fait raison, la SNCF, les cheminots et les syndicats singulièrement, avec leurs revendications très catégorielles, sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Et nous, la concurrence, nous sommes effectivement favorables à cette ouverture du marché. regardez ce qui se passe sur Paris-Lyon depuis que les Italiens sont venus concurrencer là frontalement à la SNCF. Comme par miracle, les tarifs ont baissé. Moi, j'ai regardé aujourd'hui sur Paris-Milan, en prenant train italien en passant par Lyon. Si on s'y prend aujourd'hui, pour un couple, ça coûte 54 euros. Paris-Milan à deux. Sur la SNCF, c'est-à-dire qu'elle a baissé ses prix parce qu'il y a quelqu'un qui vient la chatouiller sur son précaré. Donc nous, nous sommes favorables à ce type de concurrence. Et puis, c'est un autre débat sur la concurrence régulée dans les services publics locaux, c'est-à-dire les TER. D'ailleurs, ça commence. PACA a donné le signal, Hauts-de-France aussi,
les régions
Grand Est également, dans la mesure où ça amène non seulement une baisse des coûts pour les collectivités ou pour le voyageur. Et ça, c'est évidemment extrêmement pour nous vertueux et des combats d'arrière-garde. Je ne dis pas la réalité sociale, notamment dans le domaine aérien, oui, où les magasins sont peut-être moins bien traités que l'agent qui est embauché et qui travaille à la SNCF. Donc il y a deux régimes et qu'il faut bien différencier selon ces deux cas-là.
Mais c'est vrai, effectivement, qu'un certain nombre de Français ont eu affaire à des grèves pendant leurs vacances, pour leur départ en vacances, alors que c'était un moment qu'ils attendaient toute l'année. Alors, on a peur des bouchons, c'est vrai, sur l'autoroute, quand on est en voiture la veille du 1er août. En revanche, bon, on risque pas de faire face à une grève, Yves Cara.
Oui, complètement. Les bouchons, ça peut s'éviter. Au pire, si on part très tôt le matin ou si on peut décaler son départ. Donc, on a cette liberté-là. Mmh. Et tout à l'heure, par rapport à votre invité qui disait qu'en fait, la voiture était subventionnée. Je rappelle que la SNCF perd des dizaines de milliards depuis des années et que c'est l'État qui ronfloue. Mmh. Donc, on subventionne aussi quand même le transport en commun avec les TER. Donc, pourquoi pas, hein. Mmh. Mais évidemment, votre auditeur l'a dit, hein. Voilà, quand on se sent un peu prisonnier, ben on privilégie la voiture. Mais vous savez, peut-être que parfois ceux qui prennent les transports en commun et les trains, ils préféraient peut-être avoir une voiture parce que ça coûte cher d'avoir une voiture et pouvoir faire le trajet et être libre. Et pourquoi pas faire un covoiturage et partager le prix du trajet, hein. C'est très très bien ça. On est vraiment pour à l'Automobile Club, évidemment, comme le covoiturage, l'autopartage et tout ça. Mais voyez, on débat plus sur les autres transports, oui, que la voiture, parce que sur la voiture, il n'y a pas de débat. On en a besoin, elle est là.
Il faut en partie aussi, vous l'avez dit vous-même d'ailleurs. Vous avez cité un chiffre, Yves Carin, sur lequel j'aimerais qu'on revienne. Cette hausse de 30% des locations de voitures, ça veut dire aussi que concrètement, il y a un certain nombre de vacanciers qui vont se déplacer en voiture pendant les vacances, parce qu'ils sont peut-être dans une ville qui n'a pas de gare ou qui n'a plus de gare ou qui veulent aller vadrouiller dans une région qu'ils ne connaissent pas encore et qui, le reste de l'année, se déplacent exclusivement en train parce qu'ils n'ont pas besoin de voiture. Yves Carras.
Oui, alors, vous savez, quand on dit on n'a pas besoin de voiture, moi, je dis toujours à ceux qui disent « moi, j'habite en ville, j'ai pas besoin de voiture », je leur dis « vous ne savez pas à quel point vous êtes dépendant de ceux qui ont un véhicule et leur permis ». Parce que vous promenez dans une ville à 6 heures du matin, c'est rempli de camions qui livrent et qui vont livrer pour que la personne qui, soi-disant, n'a pas besoin de voiture et est vertueuse, puisse descendre en bas de chez elle et acheter ce qu'il faut pour manger et pour vivre. Donc, il faut faire attention. On est tous automobilistes, soit directement, soit indirectement.
Et on a tous, en tout cas, quelqu'un qui nous conduit quelque part, qu'il conduise un train, voilà, ou une voiture, ou alors un avion. L'avenir est aussi aux différents modes de transport. Ce sera peut-être le mot de la fin pour vous, Michel Kidor. Concrètement.
Oui, je pense que l'avenir est... Non, il n'est pas question de poser. Moi, je pense que quand même,
oui,
on sait très bien que la SNCF est subventionnée. C'est dans une partie de ses statuts. Là, un service purement commercial, ce sont les TGV, puis des services publics locaux, qui sont subventionnés d'ailleurs par les régions. Ce sont deux choses différentes. Donc, personne ne nie que la SNCF est subventionnée. Ce que nous constatons, c'est que la voiture, effectivement, en ce moment, jusqu'au moins à la fin de l'année, va être aidée au niveau du carburant.
C'est vrai.
Et que, comme je le disais tout à l'heure, le chemin de fer a un certain nombre de handicaps à rattraper. Je voulais simplement dire aussi que un exemple concret, nous avons eu des amis qui sont venus nous voir, au lieu de mettre 5 heures, ils ont mis 6h30 en voiture. Ils auraient pris le train, leur train aurait eu 1h30 de retard, 50% du prix du billet leur aurait été remboursé par la SNCF. Il y a un système des droits des voyageurs au niveau français et européen qui protège les voyageurs de train en cas de dysfonctionnement. Donc l'idéal, ce n'est pas que les trains aient du retard, mais sachez que quand il y a un dysfonctionnement, ce retard peut être indemnisé et parfois même compensé par des reroutages. Donc l'avantage de la voiture, il est indéniable. Que je sache, ce ne sont pas des voitures individuelles qui viennent livrer les supermarchés en ville à 6 heures du matin. Ce sont des camions. Et ça, c'est un autre débat. Le poids lourd, lui, non, il ne fait pas 80%, il fait presque 90% du transport de marchandises. Et là aussi, il y a un long débat.
Et là, c'est un autre débat aussi. Ouais. Mais peut-être qu'on passera tous un jour notre permis camion. Pourquoi pas? Merci à tous les deux d'être intervenus pendant vos vacances, chers amis. Michel Kidor, président de la Fédération européenne des voyageurs, et vous, Yves Carra, porte-parole de l'Automobile Club Association. Chers amis qui nous écoutez sur Sud Radio, on vous souhaite à toutes et à tous de belles vacances. Si vous êtes zaoutien, une bonne reprise. Si vous étiez juilletiste, vous verrez, ça va bien se passer. Quoi qu'il en soit, nous, on se retrouve demain à partir de midi sur Sud Radio avec toute l'équipe pour Sud Radio Midi. On continuera à faire le tour des informations qui marquent ces vacances et ce mois d'août, puisque l'actualité ne s'arrête pas. La culture non plus ne s'arrête pas sur Sud Radio, puisque dans quelques minutes, vous avez retrouvé Les Clés d'une vie avec Jacques Pessis en compagnie de son invité. On va chanter, on va faire un petit peu de poésie, puisque vous reconnaissez peut-être la voix de Joyce Jonathan. Elle est l'invitée de Jacques Pessis à partir de 13h30. C'est dans un instant et c'est sur Sud Radio.